Notre ami Hugo Meunier est là, journaliste tout-terrain à Urbania. Et en fin de semaine, l'expression journaliste tout-terrain, Hugo, a pris tout son sens parce que tu as mis tes bottes de marche pour aller dans la forêt d'occupation double.
Salut, Pat. Écoute, j'ajouterais même le terme journaliste pédestre. Ça te peux-tu?
Oui, oui. Oui, ben, je trouve que c'est moins viril que journaliste. Que journaliste tout-terrain.
On est en 2020, ça n'existe plus le concept de virilité, je pense, aujourd'hui.
Hey, qu'est-ce que tu as trouvé dans la montagne coupée où est située la maison d'occupation double?
Ben, j'ai trouvé une histoire. C'était déjà ça le défi, parce qu'à la base, on va à la pêche souvent dans notre métier. Et j'étais vraiment pas sûr de mon coup. J'ai pas mes entrées chez OD dans l'entourage de la populaire télé-réalité. Donc, j'avais absolument aucune idée si j'avais une histoire ou pas. Mais je sais que ça fédère des centaines de milliers de personnes, dont tout le bureau d'Urbania. Je me suis dit, c'est sûr qu'il doit y avoir un petit buzz autour des lieux de tournage qui sont à Saint-Jean-de-Matha. C'est à une heure de Montréal, la montagne coupée, ça s'appelle, c'est une auberge qui ont fermé jusqu'à la fin du tournage. Je crois que ça va réouvrir en décembre. Et je me suis demandé juste, bon, mais il y a peut-être une histoire là, on va aller voir. Et il faisait très beau dimanche, donc j'ai bien choisi ma journée. Et voilà, je suis parti à la pêche à l'histoire pour voir s'il y avait des voyeurs, comme on dit dans le métier, des badauds qui allaient là expressément pour espérer une espèce d'égo-portrait devant les maisons d'Odé.
Dans la forêt, il y avait plein de monde qui voulait, il y avait plein de voyeurs d'Odé, c'est ça?
Ben, c'était ça le but. J'en ai trouvé, donc ça existe. Mais où j'ai eu ma confirmation, c'est qu'il y avait beaucoup de sécurité, des agents de sécurité qui étaient postés en haut devant la guérite. On s'est fait prendre aussi par un agent de sécurité dans la forêt, parce qu'on a coupé dans le bois pour aller essayer de trouver les maisons d'Odé qu'on a finalement trouvées. Et il y a un gars de sécurité fort sympathique qui est venu nous voir, qui a pas voulu se nommer et tout ça, mais qui nous a quand même confirmé que c'était non-stop, sans arrêt, qu'il y avait toujours des gens qui allaient là pour espérer voir peut-être une dentition immaculée, torse musclé de candidat. Et c'est ça. Donc, il nous a fait rebrousser le chemin. Mais il nous a dit que c'était surtout la nuit qu'il voyait ça. Et un autre agent de sécurité, sont plusieurs, 24 sur 24, nous a dit que la veille donc de notre arrivée, il y en a eu des jeunes là, qui ont dû expulser à cause de ça. Même un jeune en motocross qui s'est rendu jusqu'en haut. Donc, c'est populaire et ça attire les badauds.
Es-tu un fan?
Non, pas du tout. Moi, je pense trop snob pour ça. Je déteste ça.
Mais voyons, t'es le gars le moins snob que je connaisse.
Oui, ouais, mais tu sais, je viens de Saint-Eustache, hein? C'est un peu le Constantinople d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Non, mais j'ai jamais accroché, j'ai jamais compris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent ironiquement. Je crois pas à ça. C'est ceux qui se disent « Ah, je l'écoute pour rien ». Ils sont quand même accrochés, mais je trouve ça d'une insipidité là olympique. Et je l'ai écouté quand même, parce que je suis un professionnel, tu le sais. Et quand j'ai rédigé mon article dimanche soir, je me suis dit je vais lui donner une chance. Et je me suis fait accompagner dans mon périple par une experte d'OD. Donc, c'était au cas où qu'on tombe sur un participant, puis j'ai aucune idée à quoi qu'il ressemble. Elle aurait pu me dire « Tiens, là, le gars qui sort avec elle. » Fait que là, je l'ai amené là-bas, puis elle m'a comme un peu briefé en chemin pour me dire que là, l'émission de dimanche était... C'était une grosse émission. Catherine, qui est avec toi en studio, pourrait confirmer. C'est oui. Là qu'on a ramené dans la pièce 5 anciens candidats pour foutre la chicane un peu.
Ce qu'on appelle le tapis de la deuxième chance.
Oui, avec ça a commencé raide, le tapis de la deuxième chance, avec une ex-candidate en pleurs après 4 secondes d'écart, probablement après une overdose de bulles de nuit. Bref, j'ai trouvé ça quand même très plate, comme si c'était ça le rebondissement, c'était qu'on amenait des anciens pour les mêler aux nouveaux. Je sais que tout le monde déteste un des personnages parce que il se prend pour un leader. Je sais un peu les grandes lignes.
Ça, c'est Charles.
Non, j'ai jamais accroché. Charles, mais pas lui.
Mais revenons à ton reportage tout terrain là dans la forêt autour de la maison d'occupation double. Il paraît que c'est bon pour le commerce local, les voyeurs.
Ben, là, écoute, là, ça serait de mettre une loupe sur une anecdote, mais effectivement, on a croisé une gang d'amis qui étaient là pour ça. Donc, tu imagines le bonheur de tomber sur ces gens-là. Tu m'en vas exactement chercher cette histoire-là. Et je tombe sur 5 fanfarons de Saint-Jean-de-Matha qui allaient justement essayer de prendre des photos, d'essayer de voir le plus possible. Ils faisaient exactement ce qu'on venait juste de faire. Nous, on venait juste de se faire expulser. Donc, on leur a donné un peu le chemin pour y aller. Mais il y en avait une là-dedans qui travaillait au café du coin qui disait qu'il y en avait remarqué une recrudescence des clients. Même chose pour bon, il y a une abbaye en bas, il y a l'abbaye Val Notre-Dame, et c'est pour ça, c'est ça qui attire en fait la plupart des gens dans les sentiers autour et tout ça. Mais il y avait quand même le commis du magasin qui nous disait qu'il avait remarqué dans les premières semaines de l'émission qu'il y avait plus de monde. Et on est allé au McDo aussi de Saint-Félix juste à côté pour demander au staff s'il y avait plus de monde, et ils nous ont dit non, pas vraiment, il n'y a pas de buzz. Mais on a servi, j'ai du temple autrefois, un gaillard fort sympathique.
Et il paraît qu'il est fin dans vie, quand même.
Ben, tu sais, là, ça, c'était le proverbial vrai monde qui nous disait, il a passé son temps à nous remercier, de nous dire merci. Fait que, tu sais, ça peut pas être fake. Il n'y avait pas de caméra qui tournait. Donc, je pense que c'est une vraie bonne personne.
Écoute, je t'amène sur un autre terrain, sans mauvais jeu de mots. Je sais que tu es un grand fan de Die Hard. Et oui. Est-ce que je me trompe? Il y a un nouveau film de 2 minutes, oui, mais un nouveau film quand même de cette série-là, Piège de cristal.
C'est génial. Ben, c'est, je pense que c'est un bonbon. C'est très émotif pour les fans finis, j'en suis. C'est un 2 minutes où ils ont vraiment compacté tout ce qu'on aime de la série Die Hard, avec plein de clins d'œil, comme le rampage dans la trappe d'air, les personnages, le même chauffeur de limousine que dans la mouture originale qui revient en version très vieillie. L'autre aussi policier qui était son ami, qu'il salue à travers une vitrine de restaurant. Et évidemment, une explosion débile, tu sais, pendant laquelle Bruce Willis se retourne évidemment jamais.
Écoute, je te demanderai pas de faire cette voix-là, mais il me semble que ça, on aurait besoin d'un bon Die Hard, d'un vrai long métrage de Die Hard de ce temps-là. Ça ferait du bien à tout le monde, je trouve.
Je pense, ben, peut-être plus avec Bruce Willis. Il faut à un moment donné laisser aller. Il faut couper le cordon, parce que là, il est plus jeune, Bruce Willis. Oui, puis oui, il est en forme, puis il a l'air encore. Tout va bien, mais je pense qu'il arrive à 64. Puis le dernier Die Hard, c'était justement avec son fils, ou ça a été. Donc, il y avait toute cette espèce de passation de pouvoir-là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Mais, tu sais, moi, j'ai un petit malaise quand même à voir encore Arnold. Je les écoute tous, là. Sylvester Stallone et compagnie jouaient au gros bras encore à 70 ans. Tu sais, ça perd un peu. Il faut, à un moment donné, passer le pop, comme on dit.
OK, revenons à ton reportage. Tu es là avec une personne qu'on peut qualifier de millénial, là. Quelqu'un qui est un peu. Qui est le public cible, là, de Occupation Double. Elle t'a servi de guide. Qu'est-ce que tu as appris sur Occupation Double à son contact?
Ben, il paraît que cette saison-ci, puis peut-être que Catherine confirmera ou pas, c'est assez plate, c'est bof, parce que habituellement, on aime ça quand il y a bien de la chicane, bien de l'action, et là, il paraît que tout le monde s'est casé très, très rapidement. Donc, j'ai su que c'était une saison un peu beige. Tout le monde s'aimait, il n'y avait pas vraiment de bisbille. Il y en a un qui captait l'attention, parce que c'est donc Charles, qui est le fatigant par excellence. Mais sinon, ça a l'air d'être pas mal ça. C'est ce que j'ai appris.
Est-ce que je peux commenter là-dessus? C'est vrai que c'est une saison qui, à un moment donné, a eu l'impression de stagner. Moi, je trouve qu'en injectant d'anciens candidats, on vient un peu de raviver le volcan, là. Ça a fait du bien, oui. Ça. Puis c'est très drôle, il y avait une candidate, Karine, qui se disait très mature depuis sa première apparition à Occupation Double, il y a plusieurs années. Je pense que c'était Bali, donc il y a à peu près 3 ans. Et... pauvre fille, après 15 minutes, après qu'elle ait mis les pieds dans la maison, elle s'est mise à pleurer, à faire une crise d'hystérie en disant que qu'elle était une espèce de pot de fleurs qui avait été tassée, puis que jamais un gars était pour s'intéresser à elle. Fait que déjà là, ça a fait un bon show d'entrée de nouveaux candidats. Et je trouve que les twists sont quand même bien faits, parce qu'il a fallu qu'on rende ça quand même intéressant, étant donné qu'ils sont au Québec. Que c'est moins paradisiaque, les voyages. Ben, je trouve qu'on s'est bien retourné de bord. Ils ont fait des voyages virtuels, c'est bien fait. Ils sont allés à Tokyo. Écoute, les images étaient incroyables. Je pensais que c'était pour avoir de l'air cheap, puis ça ne l'est pas.
Mm-hmm. Ouais, puis j'imagine que toutes ces personnes-là, après 15 saisons, doivent plus s'imaginer trouver l'amour. Donc, ils vont donner un show. Mais en tout cas, j'ai quand même un peu de jugement, là, puis là, jugez-moi à votre tour, mais il y a une candidate là-dedans, apparemment, c'est une maman qui a laissé son flow à la maison pour retourner une deuxième fois à OD. J'ai un peu de la misère à comprendre ce concept-là, mais en même temps, qui suis-je à part la personne qui a abandonné ses enfants à la maison pour aller dans le bois autour de l'endroit où on
est? Hugo, c'est pas la même chose. T'es parti quelques heures à peine au nom du droit du public à l'information.
Ben, j'étais en mission, effectivement, puis c'est ça, hein.
Hugo, j'ai une question qui est vraiment d'importance. Là. On avait déjà vu un reportage avec Louis Morissette il y a plusieurs années, oui. Lorsqu'il avait présenté le seul et unique épisode de VIP. Il oui. est allé oui. dans la maison d'occupation double. Lui, s'était rendu, avait réussi à entrer via la porte patio, avait jasé avec les filles. Donc, ta mission à toi, est-ce que tu qualifies ça comme un échec?
C'est super bon, parce que quelqu'un qui a relevé ça après, j'ai fait « My God, je me suis fait tellement battre par Louis Morissette. »
Mais Louis avait réussi à entrer dans la maison, lui.
Oui, mais je pense qu'il était organisé avec le gars des vues. Je peux me tromper, s'il écoute, il peut se manifester.
Je pense que le gars des vues n'était pas approuvé par TVA, parce que je me souviens que TVA n'était pas super content.
Il s'était déguisé en arbuste, par contre. Il y avait eu ce coup de génie-là. J'ai pas pensé à ça. J'avais mes vêtements, évidemment, de camouflage. Mais
une chemise de chasse?
Arbuste, ben oui, tout le temps. Mais non, j'avoue, ben, ça se peut. Hein. C'est même Sidney Crosby rate le filet de temps en temps.
Ah, mais en tout cas, moi, j'aurais aimé ça, ta compagnie. Je pense que tu m'aurais fait plaisir parce que j'ai l'impression que ta millennials, elle était un petit peu blasée là, de la saison. J'aurais été beaucoup plus excitée qu'elle.
Oui, elle était très blasée. Puis en plus, bon, comme tous les millennials, c'était quelqu'un qui était de mauvaise foi. Donc, j'ai à un moment donné ramassé un bâton de marche pour commencer à siffloter dans le sentier. Elle m'a jeté un petit regard, elle m'a jugé très sévèrement. Donc, j'ai lâché mon bâton puis j'ai continué.
Pourquoi elle jugeait? Qu'est-ce qu'il y a de mal à marcher avec un bâton de marche dans la forêt?
Ben, je sais pas. Mais tu sais, ils n'ont pas d'âme, là, cette génération-là. Il n'y a plus de magie.
Les jeunes?
Ben oui, ils sont comme ça.
Tu sais, morale de cette histoire, Hugo, là, sortez donc des gens qui sont dans quarantaine, qui sont pognés chez eux, puis qui sont peu habitués de sortir.
Ça serait écœurant.
Ben, tu vois, c'est ça. Arrêtez de mettre tous vos efforts sur les millennials.
Envoyez des hommes blancs quadragénaires voilà. à son double la saison prochaine, s'il te plaît.
Comme toi.
Oui, je serais prête.
J'aimerais ça te voir dans le tourbillon, Hugo.
Bon, il faudrait que je recommence. Les gyms, ça ouvre quand, ça?
Je pense que ça va être les dernières affaires à rouvrir.
OK.
Lâche pas. Merci, Hugo.
Merci à vous.
Hugo Meunier, journaliste tout-terrain à Urbania. Il y a toujours des bonnes idées. Ça implique toujours d'aller voir quelque chose, d'aller...
Écoute, mais je trouve qu'il se démène. Tu sais, j'avais déjà vu, à un moment donné, un reportage là, au début de la pandémie là, où il est allé voir des gens dans des parcs, puis la façon dont il était accoutré, puis s'il était pris, c'est un peu le même concept que... Tu sais, Jean-René Dufort est ingénieux dans sa façon de faire des entrevues. Je trouve qu'Hugo Meunier a le même génie.
Moi, je le connais depuis 13 ans, depuis que je suis à la presse. Puis ça a toujours été un gars ingénieux. Il a été journaliste à la presse, Hugo. Et un gars qui a toujours des bons flashs de terrain. Écoute, un moment donné, quand il y avait du verglas, il est parti de Rosemont en patin jusqu'à la presse.
Ça, c'est très drôle et je suis sûre qu'il s'est fait mal en faisant un truc du genre, non?
Il a plus fait mal à ses lames de patin, mais il a réussi des grands bouts à faire du patin. Puis évidemment, c'était pour montrer comment c'était un peu mal entretenu
et
les
en
trottoirs.
En plus, c'est un chic type. Il a liké ma photo de Francis Cabrel, ce que toi, tu n'as pas fait.
Ben là.
Et c'est ça. Catherine, fait que je me dis, si il voit un amour à Francis Cabrel, cet homme est incroyable.
Je vais te faire 25 saluts, Marie.